D'abord, je voudrais, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, m'excuser pour tous ces problèmes techniques que nous avons eu avec le visionnage de la messe. Donc, on a passé des heures hier avec mon ami d'Andorre pour essayer de régler les choses. Donc, on arrête l'idée d'avoir la messe en direct. C'est trop compliqué techniquement. On n'arrive pas à avoir les choses qui fonctionnent normalement. Donc, on va revenir à un système sur YouTube. Donc, en principe, vous aurez la messe à peu près une heure après la fin de la messe, c'est-à-dire vers 13 h, heure de Paris. Vous aurez à ce moment-là à la messe. J'espère que ça va marcher. On priait pour ça. Priez aussi pour la retraite que je donne cette semaine qui arrive pour 3 personnes, pour que le bon Dieu fasse ce qu'il veut avec ses âmes. Je vais commencer par vous lire l'épître et l'évangile. Je vous ai prévenu que pour aider ceux qui n'ont pas de missel, à l'étranger, je lirai au début du sermon, donc l'épître et l'évangile du jour. L'épître, c'est l'épître de saint Paul aux Galates, chapitre 5. Mes frères, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit va à l'encontre de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Que si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont bien connues. C'est la fornication, l'impureté, l'impudicité, la débauche, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les discordes, les jalousies, les emportements, les cabales, les divisions, les factions, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies et choses semblables au sujet desquelles je vous préviens, comme déjà je vous ai prévenu que ceux qui les commettent n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la confiance, la modestie, la continence et la chasteté. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi, mais ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. On se lève pour l'évangile. Continuation ensuite de saint évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, nul ne peut servir de maître. Car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et dédaignera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez donc pas inquiets pour votre existence, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous revêtirez. Est-ce que l'existence n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas plus qu'eux? Et lequel de vous peut, en se tourmentant, ajouter à sa taille une seule coudée? Que vous inquiétez-vous alors des vêtements? Considérez les lys des champs comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent, et je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée dans le four, Dieu l'habille de la sorte, combien plus vous-même, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc pas, disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre, car c'est tout cela que les païens réclament, et votre Père sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Asseyez-vous. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, bien chers amis, pour ce 14e dimanche après la Pentecôte, cette fois-ci, l'Église a plus choisi le thème de la justice de Dieu. Il ne faut pas, encore une fois, je vous l'ai souvent expliqué, il ne faut pas séparer la justice et la miséricorde. La justice et la miséricorde sont comme les deux doigts de la même main, ils travaillent ensemble. La justice va et la miséricorde, si vous voulez, sont deux manières pour notre Seigneur Jésus-Christ de nous montrer qu'il nous aime. Si une maman laissait faire à ses enfants n'importe quoi, ça prouverait une chose, c'est qu'elle n'aime plus ses enfants. C'est la même chose avec le bon Dieu. La clé de la compréhension de ces deux textes, saint Matthieu et l'épître aux Galates de saint Paul, c'est à la fin, à la finale de l'évangile, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Le mot important, c'est le d'abord, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le bon Dieu ne dit pas: ne vous occupez que de l'âme, ne vous préoccupez pas du corps. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, sa justice. C'est-à-dire, l'âme est plus importante que le corps. L'âme est la forme du corps, Et l'âme est cette substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder, de connaître Dieu à cause de l'intelligence et de le posséder par la volonté. Donc, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande? De placer nos priorités. D'abord l'âme, puis le corps. Et craignez pas ceux qui peuvent attaquer le corps, faire du mal au corps, craignez ceux qui peuvent attaquer l'âme. Et donc, ce texte ne dit pas, attention, il ne faut pas comprendre de travers. Souvent, les gens nous disent, bon, monsieur l'abbé, ça veut dire qu'il faut s'occuper que de l'âme, et puis le reste, le bon Dieu s'en occupe, on n'a plus rien à faire pour le reste. Non, attention. Si vous avez une intelligence et une volonté, c'est aussi pour vous occuper des choses matérielles. Mais il faut placer les choses matérielles là où elles doivent être placées, c'est-à-dire sous les choses spirituelles. Pas au-dessus des choses spirituelles. Et s'il fallait définir le monde moderne, très visible surtout en France actuellement, c'est un monde qui se préoccupe du corps et qui a complètement oublié l'âme. Donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire quoi? Vérifiez d'abord que vous avez dans la poche la petite clé qui ouvre la porte du paradis. Et si vous avez cette clé, ne vous préoccupez pas trop du reste, le reste vous sera accordé aussi. Cette clé qui ouvre la porte du paradis, c'est quoi? Cette clé qui ouvre la porte du paradis, c'est la vertu de charité. L'habitation en nous de la Sainte Trinité, la grâce habituelle, la grâce sanctifiante. C'est ça, la clé qui ouvre la porte du paradis. À partir du moment où j'ai dans ma poche cette clé qui ouvre la porte du paradis, j'ai mon ticket pour le paradis en quelque sorte, le jour de ma mort. Et si je veux l'avoir dans la poche le jour de ma mort, il vaut mieux l'avoir dans la poche aussi pendant la journée, hein, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc si j'ai ce ticket pour le paradis dans ma poche, j'ai fait l'essentiel de mon rôle. J'ai rempli l'essentiel de mon rôle ici bas sur la terre. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Rappelez-vous les exercices de Saint Ignace, certains d'entre vous vont les suivre cette semaine. Rappelez-vous l'ouverture des exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Et tout le reste, toutes les créatures autour de nous, nous dit Saint Ignace, on a le droit de les utiliser dans la mesure où elles nous aident à aller au ciel. À remplir la fin pour laquelle, atteindre la fin pour laquelle nous avons été créés. Mais si ces créatures autour de nous sont pour nous un obstacle pour aller au ciel, eh bien, on se coupe de ces créatures parce qu'elles deviennent pour nous des obèques, des empêchements. Alors, essayons d'analyser un petit peu le texte, ces deux textes complémentaires. Très intéressant de voir que tant l'épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, et l'épître et l'évangile tiré de Saint Matthieu, le thème est exactement le même. Et pour comprendre ce thème, il faut remonter très loin dans l'histoire de l'humanité. Parce que ce thème, on va le retrouver plusieurs fois. Il y a un combat. L'homme est un soldat. Nous sommes des soldats. Et un soldat, c'est quelqu'un qui se bat. Imaginez un soldat qui veut rester dans la caserne toute la journée à faire la sieste. Il est indigne d'être un soldat. Nous sommes des soldats. Surtout en plus, nous qui sommes baptisés avec le sacrement de confirmation, nous sommes des soldats du Christ. Et nous devons participer, nous allons participer à ce combat gigantesque entre deux mondes. Deux mondes qui ne peuvent que se haïr, tellement ils sont opposés. Deux mondes, deux planètes différentes, de façons de penser différentes, de façons de vivre différentes, de lois différentes, de religions différentes, des sacrements différents. Soit on met notre Seigneur Jésus-Christ au centre, soit on met le démon au centre. Soit on est dans une société centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ, une société théocentrique, soit une société centrée sur le démon, sur le monde, ses pompes et ses œuvres. Il n'y a pas de choix. Nous sommes obligés de participer à ce combat. Le problème, c'est que la ligne de démarcation entre ces deux mondes n'est pas clairement définie. Il y a des gens qui appartiennent aux deux armées. Il y en a qui sont l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, l'armée qui sont des gens qui sont dans l'armée du démon, et qui vivent dans la même ville, qui vivent dans la même province, qui vivent parfois même dans la même famille. Et c'est pas facile pour nous, justement, parce que cette influence terrible, comme la limaille de fer est attirée, si vous voulez, naturellement par l'aimant, de la même façon, nous avons en nous une attirance terrible pour le monde de notre tout le monde du démon. Pourquoi? À cause du péché originel. À cause du péché originel, à cause des blessures, surtout la blessure d'ignorance, la blessure de malice, la blessure de la faiblesse et les blessures de la concupiscence. Et donc, il y a ce combat terrible Et on ne peut pas aller au ciel sans combattre. Alors il faut revenir pour comprendre tout ça à ce qu'a dit Dieu, justement, au démon, juste après qu'il ait trompé Adam et Ève, juste après le péché originel. Qu'est-ce qu'a dit Dieu au démon? À cause de ce que tu as fait, je mettrai, a-t-il dit, une inimitié entre toi et la femme. Et dans le texte du livre de la Genèse, on met une F majuscule pour le mot femme. Entre toi et la femme, entre tes descendants et les descendants de la femme. Ça veut dire inimitié. C'est un mot français qui n'est plus guère utilisé aujourd'hui. Un synonyme d'inimitié, c'est le mot haine. Je mettrai de la haine entre tes enfants et ses enfants. Entre les enfants du démon et les enfants de la Vierge, qui sont les enfants du Fils de la Vierge, à savoir les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va rajouter, tu chercheras à la mordre au talon et elle t'écrasera la tête. Deux choses à bien comprendre. Dieu ne dit pas au démon, tu piqueras la Sainte Vierge au talon. Tu chercheras à la mordre au talon. Et elle t'écrasera la tête. Il ne dit pas, elle t'écrase la tête ici-bas. Il dit maintenant, elle t'écrasera, c'est un futur. Parce qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. C'est pour ça qu'on a parfois l'impression, aujourd'hui dans le monde moderne, quand on se voit tellement isolé comme catholique, on a tendance à se dire, mais qu'est-ce que fait la Sainte Vierge Marie? Quand est-ce qu'elle va écraser la tête du démon? Elle ne va pas écraser la tête du démon maintenant, elle l'écrasera à la fin des temps. Ça, c'est la première étape. Donc, se rappeler cette parole terrible, je mettrai une haine entre tes enfants, les enfants du démon et les enfants de la Sainte Vierge Marie. Et on retrouve exactement, pratiquement la même formule juste après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, pour bien rappeler aux hommes pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est venu au monde. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu au monde pour faire la sieste et jouer au golf toute la journée, c'est pas ça. Notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-il venu au monde? Il est venu au monde justement pour nous donner la force de combattre. Et rappelez-vous ce qui se passe dès sa naissance. Il est tout petit, tout enfant, tout bébé encore, porté par la très sainte Vierge Marie, qui est pleine de joie, vient le présenter au temple avec accompagné de son époux, Saint Joseph. Et vous connaissez l'histoire, Saint Siméon, là, ce vieillard à qui il a été révélé qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir tenu entre ses bras le Sauveur du monde. Le Saint-Esprit lui dit, voilà ce bébé qui arrive là entre les mains de la Sainte Vierge Marie, c'est lui. Et donc il va prendre l'enfant, et il va renouveler exactement la même phrase, littéralement, qui avait déjà été dite au démon, au début. Il va dire, cet enfant sera un signe de contradiction pour la chute ou la ruine de beaucoup en Israël. Un signe de contradiction. C'est quoi ce signe de contradiction? C'est justement la même chose, la haine. Soit l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'humilité et la vertu de charité, soit l'armée du démon avec l'orgueil et la haine. Donc on renouvelle exactement la même phrase. Je mettrai une inimitié, là, c'est je mettrai, cet enfant sera un signe de contradiction. Et Saint Siméon va enfoncer le clou en disant même, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Elle comprend déjà qu'elle est co-rédemptrice du genre humain, parce qu'elle est médiatrice aussi, médiatrice de toutes les grâces, et toutes les grâces passent par la croix. Donc il va falloir qu'elle participe de façon intime à la crucifixion de son divin Fils. Si on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Le grand rêve, si vous voulez, du monde moderne, et c'est ça qui explique bien des choses, de même qu'il y a deux armées, l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ et l'armée du démon, il y a également aujourd'hui malheureusement deux églises, l'église catholique, une sainte catholique et apostolique, et l'armée de l'église de Vatican II, fondée justement sur l'homme. Donc d'un côté, vous avez la loi des dix commandements de Dieu, de l'autre côté, c'est la loi des droits de l'homme. Quelle est la loi qui régit l'Église de Vatican II? C'est les droits de l'homme. Il suffit de voir François à Rome, Bergoglio à Rome, qui ne fait que parler des droits de l'homme en longueur de journée. Et on retrouve dans les textes d'aujourd'hui exactement la même chose. Qu'est-ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ dans ce très beau texte, très, très dur, de Saint Matthieu? Nul ne peut servir de maître. Et il va réutiliser exactement le même terme. Ou vous aimerez l'un et haïrez l'autre, ou vous haïrez le premier et aimerez le second. C'est la même chose, c'est exactement le même avertissement. On ne peut pas servir Dieu et Maman. On ne peut pas servir notre Seigneur Jésus-Christ et le démon. On ne peut pas partager entre les deux choses. Et beaucoup de fidèles rêvent, j'espère pas nos fidèles à nous, mais beaucoup de catholiques qui n'ont pas compris ces choses-là, rêvent, ont rêvé depuis des siècles et des siècles à cette idée complètement folle de marier les principes de la Révolution avec les principes de l'Évangile, de marier la loi des 10 commandements de Dieu avec la loi des droits de l'homme. C'est ou les droits de Dieu ou les droits de l'homme. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Si on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Mais si on n'a pas compris ça, on ne comprend rien. L'Évangile explique bien justement qu'il y a ce combat terrible parce que je ne fais pas ce que je voudrais faire et je suis tenté à cause des conséquences du péché originel de faire constamment ce que je ne devrais pas faire. Je sais très bien où je dois aller. Parce qu'on a une conscience qui nous indique où est le vrai. Donc, vous voyez très bien que notre Seigneur Jésus-Christ reprend exactement, pratiquement les mêmes termes. Et encore de nouveau, on voit le mot « haine ». Le bon Dieu nous demande d'avoir de la haine contre le péché, de la haine contre le démon. Il ne faut pas avoir la haine contre le péché, attention. Mais la haine contre le péché. Et ces catholiques qui veulent justement essayer de marier ensemble la loi des 10 commandements de Dieu et la loi des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle les catholiques libéraux. Ça a commencé déjà autour des années 1830. Et l'Église catholique a condamné ce mariage adultère qui est absolument impossible parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas marier ces deux principes. Et les petits malins qui vont venir en disant « Écoutez, monsieur l'abbé, c'est vrai ce que vous dites, mais vous comprenez, il faut quand même vivre dans le monde moderne. » Alors vous comprenez, le dimanche de 10h à 11h30, bon, d'accord, je suis avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord, je reconnais la loi des 10 commandements de Dieu. Mais pendant la semaine, monsieur l'abbé, c'est la loi des droits de l'homme. Mais si vous voulez suivre notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche de 10h à midi et le démon pendant tout le reste de la semaine, vous êtes un mauvais soldat, vous êtes un faux soldat, vous êtes ce qu'on appelle un traître, parce qu'en fait, vous prétendez être dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, vous servez l'ennemi. C'est ça la trahison. Et c'est encore plus grave de prétendre être dans un camp alors qu'on travaille pour l'autre que d'être officiellement dans le mauvais camp. C'est exactement ce qui se passe. Si au moins les choses étaient claires, ce serait beaucoup plus simple. Mais rappelez-vous ce que nous a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Là où est notre cœur, là nous serons. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui est premier pour moi? Et pour renforcer le coup, encore une fois, regardez le texte de Saint Paul. Pas pour rien que la Sainte Église a choisi pour mettre en parallèle avec ce texte très fort de Saint Matthieu, « Nul ne peut servir de maître à la fois ». La Sainte Église a choisi ce texte de Saint Paul aux Galates. Les fruits. Les fruits du Saint-Esprit contre les fruits de la chair. De cette longue litanie que je viens de vous lire, des fruits de la chair, tous centrés autour de deux péchés principaux, l'idolâtrie et tous les péchés d'impureté, contre les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, ça commence justement par la charité, la joie, la paix, la patience. Et là, on voit bien. Il n'est pas possible de marier ces deux fruits ensemble. Rappelez-vous ce qu'a prévenu notre Seigneur, ce que nous a déjà dit notre Seigneur Jésus-Christ. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Donc où sont les fruits? Où sont les fruits dans ma vie? Est-ce que j'ai les fruits basés justement sur la loi divine? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai dans mon verger, dans le verger de mon âme, sur l'arbre, les arbres qui sont plantés dans mon verger, dans mon âme, est-ce que ces arbres ne donnent que les fruits du monde? Et on touche là un point capital. Parce que, encore une fois, à cause de cette haine qui doit exister, hélas, entre l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ contre l'armée du démon, eh bien, il y a ce combat terrible. Rappelez-vous les débuts de l'histoire de l'Église. D'après certains historiens, il y a jusqu'à 14 millions de martyrs au début. Au début, il y a 14 millions de martyrs. Le bon Dieu, il était bien content d'avoir les martyrs, mais le démon n'était pas content de faire des martyrs. Il a changé de technique. Maintenant, ce n'est plus un martyr physique, c'est des martyrs psychologiques. Cette isolation terrible dans laquelle doivent vivre les catholiques aujourd'hui, parce qu'on est justement, nous ne sommes plus des hommes du monde, nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons renoncé le jour de notre baptême aux pompes et aux œuvres du démon. Alors vous allez me dire, même sur l'abbé, contre une telle puissance, que pouvons-nous faire? On peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup justement avec l'aide de celle à qui Dieu a dit, tu écraseras la tête du démon. Et donc il faut utiliser d'abord la très sainte Vierge Marie, parce que ce n'est pas pour rien que le bon Dieu nous l'a présenté justement comme étant celle qui a pour charge d'écraser la tête du démon. La très sainte Vierge Marie, elle a un deuxième rôle, attention. Elle a le rôle aussi de nous amener les grâces de son divin Fils. Et comment obtenons-nous ces grâces de notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils? Nous obtenons ces grâces justement par le sacrement de pénitence, par le sacrement de la Sainte Eucharistie, par la Sainte Messe. Donc quand nous commençons à nous décourager, parce qu'on est tellement isolé, tellement écrabouillé littéralement par la République laïque dans laquelle nous sommes obligés de vivre, et hélas ici en France, eh bien, lorsque nous avons ce découragement terrible, mettons-nous au pied de la croix, mettons-nous au pied de la très sainte Vierge Marie, et commençons à prier, parce que le bon Dieu a promis qu'il répondrait toujours à tous ceux qui demandent ses grâces avec humilité. Rappelez-vous le publicain de l'Évangile, qui reste à la porte de l'église, qui n'a même pas levé les yeux vers le ciel, et qui est absous de ses péchés, parce qu'il a l'humilité. Donc ne nous décourageons pas, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir toutes ces grâces de force, ces grâces de lumière, ces grâces de charité, ces grâces d'humilité pour éliminer en nous cette haine et cet orgueil surtout qui a mené le démon en enfer. Pourquoi est-ce qu'il y a ce combat terrible? La raison, je terminais par ça, la raison c'est que le démon a perdu le ciel. Non seulement il a perdu le ciel, mais il sait que les hommes qui meurent en état de grâce vont aller occuper les places que lui-même occupait avec ses copains, avec ses amis, les mauvais anges. Les mêmes places. Et donc, il est déchaîné contre les hommes par la jalousie, il ne peut pas supporter de voir un homme monter au ciel, une âme monter au ciel et prendre une de ses places qui était la sienne auparavant. Et au contraire, le démon ne peut que se réjouir quand il voit une âme tomber en enfer. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de rester toujours, malgré les difficultés, malgré les tentations, malgré les désolations, toutes les épreuves par lesquelles nous devons tous passer, de nous aider, prions à notre Sainte Vierge Marie, de nous aider à garder cette force, cette paix, cette joie, ce courage de suivre notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au jour où nous pourrons voir notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sainte Mère pour toujours au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.